Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur RMC, sur Afterfoot TV, sur la chaîne YouTube de l'After. On est ensemble jusqu'à minuit, heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée spéciale Coupe du Monde, bien sûr. Un beau programme à venir que je vais détailler dans un instant. D'abord, j'accueille mes deux acolytes du soir. Je retrouve mon cher Walid à Cherchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut tout le monde.
Heureux de te retrouver Walid.
Moi aussi.
T'es frais.
Ouais.
T'es bien.
Frais, oui.
Si, si, t'es frais. Oui. T'es bonne petite cerne quand même sous les yeux, mais
oui,
comme
mais
tout le monde,
toujours,
je crois.
Frais. Toujours frais dans l'esprit.
Alors, en revanche, l'esprit est frais.
Ouais, oui.
Ça, il n'y a rien à dire. Voilà. T'es aussi toujours intense aux États-Unis toujours qu'en France. Toi.
Intensité, intensité, intensité.
Toi, sur du gazon, du dur.
Ah non, on est.
C'est pareil, quoi.
Tout terrain, VTT.
Sur de la terre battue.
Ouais.
Peut-être un peu moins sur la terre battue.
Ouais, terre battue un peu moins. Ouais.
Maxime Chanet est également avec nous. Salut Maxime.
Salut Nico, salut Walid, salut à tous.
Salut Max.
Il est en direct de New York, Maxime Chano,
en pleine forme.
Au café Luce, Hell's Kitchen, Dédi, bien sûr. On salue bien tout le monde là-bas sur place. Je crois que Julien Cazard et Jean-Christophe Drouet sont arrivés sur site, hein, Maxime.
Ouais, ils étaient avec moi tout à l'heure, ça, ils sont partis se restaurer après un long voyage entre Paris et New York, mais ils sont bien arrivés, en effet.
Ils sont bien arrivés, très bien. Vous pourrez suivre, allez. Les productions, les contenus de Julien et de JC dès demain, bien sûr. Alors, au programme de l'After ce soir, on va bien sûr balayer et évoquer ces demi-finales de la Coupe du Monde, affiche de rêve. Tiens, je vous demanderai notamment à 23h30 quelle serait la plus belle histoire entre une équipe de France menée par un Mbappé qui peut être double champion du monde, un Lamine Yamal à 19 ans qui peut l'être pour la première fois, un Messi qui peut l'être à 39 ans pour la deuxième fois, ou une Angleterre pour la première fois depuis 60 ans. Vous me direz quelle victoire pourrait susciter la plus grande émotion dans le monde en général. On en débattra ensemble, puis votre envie personnelle également. D'abord, on parlera notamment de l'équipe de France. Deschamps a-t-il raison de maintenir le système à 4 attaquants face à l'Espagne? Est-ce un pari risqué? Je donnerai la composition probable que nos reporters nous envoyaient en début de soirée. Et puis, Walid, tu veux parler de Lamine Yamal pour l'instant. Je ne vais pas dire décevant, mais pas là où on l'attendait en termes de niveau. Tu penses, attention Yamal, peut nous faire une Zidane 98 se réveiller en fin de compétition. Et puis, y a-t-il un problème Tourelle-Bellingham? On sera avec Julien Laurence pour en parler après la sortie devant les micros de Bellingham qui n'a pas lui compris le jugement du match par son sélectionneur Thomas Tuchel. Est-ce qu'il y a de la friture entre les deux? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la demi-finale face à l'Argentine? Argentine, tiens, question, serait-elle le vainqueur le moins crédible de ce mondial? Là aussi, on va en parler. Des buts encaissés très régulièrement, un équilibre très fragile, un jeu proche du néant. Venez en débattre avec nous 32-16. Et puis, on parlera également en toute fin d'after avec Nico Pelletier qui est sur place d'une Coupe du Monde à 64 équipes. On pensait que l'idée était enterrée. Eh bien, elle est relancée, bien sûr, par le grand Gianni Infantino hein, qui veut ouvrir la Coupe du Monde à tout le monde, absolument. On va en parler. Il y a des partisans, il y a des anti, nouveau format. Restez avec nous, c'est l'after. C'est parti pour 2 heures. Alors les gars, ça va Maxime, t'es en forme?
Écoute, ça va très très bien, il fait très très chaud aussi.
Ah, il fait chaud à New York.
D'accord. Ouais, ça y est, le soleil est revenu. Évidemment, vous nous manquez.
Ah oui, c'est pareil sur
tous
nous,
les deux. Mais bon, écoute, c'est que partie remise. On va bientôt se revoir à Paris, j'espère, avec une troisième étoile.
Qui te manque le plus, Walid ou moi?
Tous les deux, je peux pas vous différencier. Hein. Pour moi, c'est une équipe. C'est une équipe.
Ah, il a passé plus de temps avec Nico quand même.
Ah oui, mais avec toi c'était plus intense.
Bah ouais, mais ouais, c'est vrai qu'avec toi c'était beaucoup plus intense, Walid.
Oui, intense.
Je sais, c'est pas la quantité, hein, c'est la qualité. Ouais, c'est la qualité.
Bien sûr.
Alors les gars, les Bleus, dernier entraînement ce dimanche avant le départ à Dallas, le Texas qu'ils ont rejoint, groupe au complet. Tout le monde y a participé pour la première fois depuis très longtemps. Retour du Upamecano Saliba, hein, qui avait été ménagé hier, préservé. Tout va bien pour Mbappé également. Tchouaméni a enchaîné une nouvelle séance en intégralité. Il est physiquement apte à 100% et donc devrait réintégrer le 11 mardi contre l'Espagne. Composition probable. Maignan, Dean, Saliba, Upamecano, Koundé, Rabiot, Tchouaméni, Doué ou Barcola. Sur la même hésitation, Olise, Dembélé, Mbappé. Je sais que Daniel a dit qu'il ne voulait pas entendre parler d'un débat Doué ou Barcola, ça ne sert absolument à rien d'en parler. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on est face à une nouvelle adversité, on est face à une autre équipe avec un style très différent. Le débat existe quand même, l'un ou l'autre. Le profil plus vertical d'un Barcola ou d'un joueur de petit périmètre comme Doué, qui a peut-être plus de qualité défensive. Pour parler de secondes. Hein.
Non, mais le débat, il peut exister, mais surtout sur la dynamique du tournoi où les deux, quand même, ont été très bons quand on les a appelés, que ce soit dans le 11 ou en sortie de banc. Maintenant, moi, je pense que Doué mérite sa titularisation de par ses dernières performances, son entrée contre le Paraguay et sa première mi-temps contre le Maroc, où il a été très bon. Pour moi, sur la première mi-temps, c'est le meilleur des quatre, c'est le plus impactant, c'est celui qui prend les ballons. Et aussi par la physionomie de la rencontre. Alors, t'as raison d'insister sur le rôle de Barcola, qui pourrait être aussi intéressant si on joue la transition. Mais moi, je pense que sur le rôle défensif, Doué avait été privilégié à Barcola pour essayer de colmater les brèches au milieu de terrain et d'être ce fameux troisième milieu, parce que le Maroc avait mis beaucoup beaucoup de joueurs dans l'axe. Je pense que contre l'Espagne ce serait la même idée, parce que l'Espagne peut avoir beaucoup de contrôle et avoir un Désiré Doué qui se réaxe contrairement à Barcola et qui peut tenir le ballon, qui peut aussi emmener le ballon avec une conduite de balle sur plusieurs mètres pour que l'équipe de France s'oxygène dans le jeu. Je pense que c'est le choix le plus logique sur ce match.
Ouais. Moi, je suis Walid, je suis d'accord avec lui. Alors, moi, c'est l'ancien défenseur qui parle. Tu sais, je pense souvent davantage à la perte de balles plutôt qu'en possession de balles. Et quand tu regardes un petit peu ce milieu espagnol, en l'occurrence avec Rodri, alors ça sera peut-être Fabián Ruiz ou Pedri, peu importe. Et surtout Dani Olmo, ça, c'est un milieu à trois. Donc, c'est vrai que si tu te permets de mettre Barcola, je pense qu'en perte de balles, tu peux avoir des problématiques. Alors qu'avec un Désiré Doué, on le sait, on l'a vu depuis le début du tournoi, qui fait quand même des gros efforts défensifs et qui peut s'intégrer en tout cas dans ce milieu à 3 à la perte de balles avec un Tchouaméni et Rabiot. Je pense que dans la densité, ça serait intéressant, au moins pour pouvoir matcher le milieu espagnol.
Et Barcola en sortie de banc, ce sera une,
oui, voilà,
une balle en plus, hein. Ce sera une possibilité, ouais, une carte à jouer pour l'équipe de France, parce que ce match-là peut aussi durer, et on l'a bien vu, hein, sur le match de Ligue des Nations ou même sur le match de l'Euro 2024. Barcola avait fait une superbe entrée à l'Euro 2024, où l'occasion de Mbappé vient notamment de ses courses. Il avait redynamisé une équipe qui était amorphe. Et sur la Ligue des Nations, on se rappelle des entrées de Cherki, de Malo Gusto et de Colomwani, qui avaient été aussi très très importantes. Donc il faudra penser ce match-là, comme dirait Roland Courbis, avec ceux qui démarrent et les finishers.
Il peut faire mal, hein, sur ce côté droite de la défense espagnole, hein, occupé par Porro, qui est un des points faibles de la sélection.
Ouais, qui fait un bon tournoi.
C'est un des meilleurs espagnols.
Mais après, il faudra voir par rapport à l'adversité, qui est, de toute façon, c'est la même chose pour les quatre sélections qui sont aujourd'hui en demi-finale. Il y aura toujours un point d'interrogation sur comment ils vont se comporter face à plus fort. Bah là, Porro en fait partie, mais pour l'instant, il a tenu son rang.
Vas-y, Max.
Et ça, c'est aussi la grande force, hein, de l'équipe de France. On parlait de la profondeur de banc. Je pense qu'avec l'Espagne, c'est peut-être la seule équipe qui peut se permettre de changer des titulaires, de faire rentrer des remplaçants et ne pas perdre en qualité. On l'a dit, hein, c'est presque une doublette, hein, que ça soit Doué, Barcola, Doué, peu importe ce que décide Deschamps. Dans tous les cas, je les trouve très complémentaires. Si c'est Doué qui commence, bah, ça permet derrière à Barcola de profiter des efforts qu'il a fait, et en l'occurrence des défenseurs espagnols qui pourraient être fatigués. Et tu l'as dit très justement, avec la verticalité, avec la profondeur que peut apporter Barcola, je pense que ça peut être une force supplémentaire pour Deschamps.
Aujourd'hui, notre banc entre Manu Koné, s'il est remplaçant, Bradley Barcola, même un Cherki qui peut peut-être sur ce type de match-là être happé par l'enjeu et par le caractère du match, qui peut à un moment donné promettre un chaos footballistique avec pas mal d'espace. Tu vois, t'as en qualité sur le banc.
Ouais. D'ailleurs, c'est un débat qui peut être ouvert aussi. Hein. On a parlé de Doué Barcola, mais pour moi, le vrai débat, c'est Koné Tchouaméni. Hein. Je ne sais pas si on y reviendra un peu plus tard.
Si, mais tu peux en parler maintenant, parce que sur la compo probable. Maintenant, il y a deux lectures possibles. Il y a le logiciel Deschamps, qui a un sens aiguisé de la hiérarchie, l'expérience aussi. Il a pas mal de bonnes références avec un mec comme Koné Tchouaméni, qui connaît pas mal aussi les joueurs espagnols pour le coup. Et il y a Manu Koné, qui a fait une bonne compétition, mais qui reste, selon nos reporters équipe de France, toujours numéro 3 dans l'esprit de Deschamps. Donc, dès Koné Tchouaméni à 100%, la question se pose pas pour Deschamps.
Ouais, non, ça peut être compréhensible. On connaît le rôle de Tchouaméni. Déjà en club, évidemment, c'est un joueur qui est titulaire indiscutable du côté du Real Madrid. C'est le vice-capitaine de l'équipe de France. Mais t'as un Manu Koné qui a fait une Coupe du Monde incroyable. Personne l'attendait forcément à ce niveau. En tout cas, personne pensait qu'il jouerait autant de matchs. Et il faut être très honnête, hein, contre le Maroc, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Walid, pour moi, c'était le meilleur.
Oui, c'était le meilleur.
Et encore plus dans la complémentarité avec Rabiot, où je trouve qu'il libère un petit peu, il décharge un petit peu Rabiot de cette tâche offensive, parce qu'il l'aide en fait. Et c'est vrai que Tchouaméni, on connaît un petit peu la situation du bonhomme, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus défensif, c'est quelqu'un qui a tendance aussi à dropper entre les lignes pour aller chercher le ballon.
Oui, mais c'est pas si mal, je pense que c'est l'équipe qui aura la possession certainement.
Ouais, moi je pense que c'est une physionomie différente par rapport au Maroc.
Et voilà, c'est ça.
C'est que t'as besoin quand même de quadriller un petit peu le terrain, vu que je pense que tu vas quand même souffrir. Parce que là, moi, il y a beaucoup de débats sur le fait, oui, on va y aller avec quatre attaquants, mais on qu'on s'imagine pas quand même qu'on ait le ballon face à l'Espagne. Moi, je pense que tu vas le laisser. Je sais pas si c'est volontairement, mais quoi qu'il arrive, l'Espagne va l'avoir sur des gros momentum de rencontres, et que t'auras besoin de quand même de joueurs qui essayent de cadrer cette défense et de stabiliser cette défense. Et
tu vois, Mini, comme tu l'as dit dans ton argument, logique, ouais.
Et comme tu l'as dit dans ton argumentaire, après, moi, la seule question, en fait, c'est Tchouaméni 100% ou pas 100%. Si c'est pas 100%, pour moi, c'est sur le banc.
Mais je sais pas, ça fait 3 semaines quasiment qu'il a pas joué.
C'est sur ça, en fait, l'équation. S'il est pas à 100%, ça, c'est problématique. Si Tchouaméni est à 70% et qu'il doit jouer parce que c'est Tchouaméni, non, là, moi, ça me dérange. Par contre, si Tchouaméni a été préservé et géré de cette manière pour qu'il arrive régénéré et frais, sur cette demi-finale, là, oui, de par son statut, de par aussi ses performances en bleu et pas que sur le tournoi depuis un an, moi, je trouve qu'il a pris une autre dimension avec l'équipe de France et même avec le Real Madrid sous Xabi Alonso où il avait une vraie bonne dynamique, et la prolongation Real Madrid elle est pas anodine. Donc moi je veux respecter Tchouaméni par rapport à ça, et oui, malheureusement Manu Koné en fait les frais, mais comme on l'a dit sur Barcola, moi je veux c'est des bons problèmes, en fait c'est des très bons problèmes, et je veux que ces joueurs là soient impactants parce que il peut avoir un match en 5-7, quoi, il peut ça peut jouer dans le super tie break cette histoire. Donc t'as besoin d'avoir un Manu Koné aussi en sortie de banc qui pour le coup lui peut être un joueur changement de rythme qui en cours de match, moi je pense, peut faire très mal à l'Espagne.
Max,
ouais, non, tout est dit. Non, je suis entièrement d'accord avec Walid. Moi, juste, je voulais revenir très très rapidement sur le match de Koné par rapport au Maroc, où je l'avais trouvé très intéressant dans la récup de balle. C'est vrai qu'en règle générale, Koné, il est quand même plus connu pour être le milieu relayeur entre la défense et l'attaque, justement un peu équilibré, notamment en possession de balle. Je l'ai trouvé très intéressant dans la récupération de balle. Je l'ai trouvé très intéressant dans les duels, dans les challenges. C'est peut-être d'ailleurs le Français qui a gagné le plus de duels. Donc ça prouve aussi qu'il sait s'adapter un petit peu et qui, malgré son style de jeu qui est beaucoup plus offensif que Tchouaméni, malgré tout, voilà, il a quand même cette intelligence, en tout cas, de pouvoir s'approprier un petit peu cette partie du terrain. Donc je suis d'accord avec Walid par rapport à ça. Tchouaméni te donne peut-être un petit peu plus d'équilibre défensif, mais attention, Koné est un mec intelligent, il a un QI footballistique aussi intéressant, et je sais qu'il saura se mettre au diapason de l'équipe. En tout cas, s'il devait débuter, je pense pas qu'on aurait un gros déséquilibre parce qu'on a Koné à la place de Tchouaméni.
Bon, vous rappelez, il y a un an, Ligue des Nations, la France était menée 5-1 par l'Espagne, était en 4-2-3-1. Deschamps va reconduire ce système-là. Moi, j'aime l'audace, j'aime l'idée d'aller au bout de son idée, surtout avec ces 4 phénomènes devant, 4+1. Mais est-ce un pari risqué, les gars? Sincèrement, je sais pas à quoi on s'expose. C'est très dur de lire ce match avant de le voir. A priori, et c'est qu'un a priori, Walid, tu l'as dit, la possession sera espagnole. Et dans cette configuration-là, est-ce que c'est dangereux d'aligner 4 joueurs à vocation très offensive?
Non, moi, pour moi, c'est pas dangereux. Et au-delà d'être dangereux ou pas, moi, je vais être cohérent avec ce qu'on dit depuis tant d'années. Nico, combien de fois on a dit, ouais, cette équipe de France, elle arrive avec très peu de certitude, avec très peu d'ambition dans le jeu, avec très peu de joueurs offensifs sous Didier Deschamps. Moi, je vais pas arriver ce soir, le dimanche 12 juillet, t'expliquer, ah ouais, c'est dangereux de jouer de cette manière contre l'Espagne. Déjà, petit 1, je trouve que Olise, Doué, Dembélé, si on regarde bien les statistiques de kilomètres parcourus, c'est monstrueux. Olise, il a 12 kilomètres par match, et 12 kilomètres par match quand il a le ballon. C'est-à-dire que quand l'équipe de France a une possession. Alors quand il l'a pas, moi je pense qu'il va aussi travailler et que c'est le parti pris, c'est le deal gagnant-gagnant entre ces attaquants-là qui voulaient tous jouer comme ça, parce que les informations de Fabrice ou de Jean-Louis, c'est qu'il y a eu une remise en question après l'Espagne en 2024 pour jouer avec plus de joueurs offensifs. Et voilà, nous on doit accompagner ce projet-là. Si demain ça se casse, enfin si mardi ça se casse les dents avec cette attaque à 4, mais je préfère me casser les dents de cette manière parce que je pense que l'équipe de France, de toute façon, on l'a vu en 2024 avec une équipe resserrée, avec une équipe défensive, ça fait le jeu de l'Espagne. Et moi, je pense que jouer de cette manière, quoi qu'il arrive, il y aura psychologiquement une crainte espagnole parce que les 4 derrière, Laporte, Cubarsí, oui, Porro et Cucurella, même si, j'allais dire Vincent Lagaffe, parce que c'est son sosie, comment il s'appelle, Luis de la Fuente. Même si Luis de la Fuente dit, on y va, gros pressing, gros contre-pressing, intensité, Les défenseurs, ils ont vu le tournoi d'Mbappé, ils ont vu le tournoi d'Olise, ils ont vu Doué en Ligue des Champions, ils ont vu Dembélé en Ligue des Champions. Et on pourra pas me dire que c'est pas un plus psychologique, oui, de jouer de cette manière pour leur faire rentrer dedans. Parce que, en fait, il y a un moment où le match c'est 90 minutes, et bah sur 90 minutes, tu sais très bien que il y a des joueurs du côté de l'équipe de France, et bah ils en ont besoin d'une, ils en ont besoin de deux pour faire très très mal. Et ça, pour moi, ça reste une force footballistique et psychologique.
Marc, t'es d'accord avec ça, le maintien de 4-2-3-1, quoi qu'il en coûte, face à l'Espagne?
Je pense aussi, alors, il faut remettre aussi un petit peu dans le contexte, tu parlais de la National League, justement,
oui,
bah, l'année
dernière.
Défense,
l'équipe de France, à cette époque-là, ouais,
c'était incomparable. T'avais l'Anglais, t'avais Konaté, t'avais Kaloulou, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais juste pour revenir par rapport très très rapidement au débat Tchouaméni Koné, c'est vrai qu'à l'époque, la paire milieu défensif était Rabiot Koné. Alors peut-être que ça hante un petit peu aussi la tête de Didier Deschamps, et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle il préfère remettre un Tchouaméni, comme tu l'as dit, qui est un peu plus équilibré d'un point de vue défensif. Ça, c'est une première chose. En ce qui concerne le statut de l'équipe de France, en tout cas, je pense qu'elle fait peur, cette équipe de France. On l'a vu depuis le début de la compétition. Elle a marqué 3 buts contre le Sénégal, 3 contre l'Irak, 3 contre la Norvège, 3 contre la Suède. Enfin, aujourd'hui, c'est une équipe qui est solide, et c'est aussi grâce à ce quatuor. Alors, tu peux te poser la question si en effet ça crée un déséquilibre en jouant avec ces quatre-là. Mais si jamais, en tout cas, Doué devait jouer, je trouvais que ça serait intéressant parce que, comme je te l'ai dit, d'un point de vue défensif, je trouve qu'il vient justement complémenter un petit peu ce milieu. Donc, en fait, ça crée après une sécurité supplémentaire. C'est une première chose. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas s'adapter à l'Espagne. Il faut que l'espace, il faut que la France, justement, aujourd'hui, elle soit sûre de son jeu. Elle l'a montré. C'est la favorite de ce tournoi. Pour moi, c'est la meilleure. C'est les favoris. Il faut pas avoir peur de cette Espagne. On l'a vu plusieurs fois. À chaque fois que les équipes, elles essaient de s'adapter un petit peu à l'adversaire, ça ne fonctionne pas. T'as un quatuor qui est incroyable. Le danger vient de partout. Que ça soit Mbappé, que ça soit Dembélé, que ça soit Olise, que ça soit Deoué, Barcola. Voilà, il faut jouer
après,
avec ses
forces.
Après,
s'adapter, ça veut dire quoi, s'adapter? Parce que moi, je pense que l'Espagne, c'est peut-être... Non, mais tu mettras pas l'Espagne cul par terre dans la surface de réparation adverse. Tu peux le faire sur 4-5 minutes, mais la logique du match, c'est que l'Espagne ait la possession. Par contre, une possession peut-être stérile parce qu'ils vont avoir peur de la perte de balle. Et c'est ça, en fait, où il faut rentrer dans la tête des Espagnols. C'est que là, ils vont commencer à ne pas prendre de risques avec le ballon parce qu'ils savent que perte de Yamal, perte de Olmo, derrière Koné ou Tchouaméni peuvent toucher les guépards devant qui vont à 10 000. Et là, après, c'est plus la même chose. Donc, moi, quand tu dis s'adapter, c'est pas forcément.
Non, mais on parlait de changement de tactique. J'ai entendu que potentiellement Deschamps reviendrait un milieu à 3.
Ah oui, non, d'accord.
Cas, okay, c'était ce que disait par rapport à l'opinion publique. C'est ça que je voulais dire, Walid. Je pense que ça serait une grosse erreur de la part de Didier Deschamps. On connaît le sélectionneur, je pense pas qu'il le fera. Je pense vraiment qu'il faut jouer avec ses atouts. Les atouts, on les connaît, c'est le quatuor offensif. Et tu l'as dit, c'est faire mal à l'Espagne. L'Espagne, elle a quand même une défense qui est loin d'être la plus rapide. Il faut profiter de ça. Il faut profiter des transitions offensives. Il faut profiter des erreurs aussi des Espagnols. On en a vu. Alors même s'ils ont très peu encaissé dans ce tournoi, on a vu quand même certaines pertes de balles au milieu du terrain, qui peut profiter justement à la vitesse et à la verticalité de l'équipe de France. Donc je pense vraiment que l'équipe de France a tout à gagner, en tout cas en gardant ce quatuor offensif. Ouais. Et après, pour terminer, attention, t'as une défense qui est solide derrière. T'as un gardien qui est costaud, t'as une paire de centraux, Saliba Upamecano, qui est incroyable, t'as un Koundé et un Lucadine qui sont en train de monter en puissance. Donc moi, j'ai pas peur de ce déséquilibre. J'avais peur au début de ce tournoi, j'étais le premier à l'avoir dit, j'ai fait mon mea culpa par rapport à ça. Je pense que Deschamps, je terminerai mon analyse là-dessus, a tout à gagner, à garder ses idéaux et jouer sur ses forces, et en l'occurrence, c'est ce qu'on
a. J'espère qu'il y aura un travail aussi tactique sur Rodri, qui est en train de retrouver un très bon niveau. On en parlera après. Mais Doué, Dembélé et Olise, si tu arrives à véritablement le cerner, parce que ce sont des joueurs qui savent bien presser, notamment en club, s'ils arrivent véritablement à... Parce que là, j'ose imaginer quand même que Deschamps, ça fait quand même une semaine, 10 jours, qu'il sait que l'Espagne, normalement, sera un candidat en demi-finale. Et qu'il y a un travail à l'entraînement là-dessus, parce que c'est pour moi l'une des clés. Si tu arrives à la source, à le gêner, et surtout, quand tu as le ballon, de faire des changements de rythme dans sa zone, parce que même s'il a retrouvé un très bon niveau, je pense que si tu lui mets beaucoup d'intensité, c'est pas le Rodri non plus qui a été ballon d'or en 2024, je pense que tu peux aussi faire mal à l'Espagne.